avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour Renaud et bonjour à tous.
Alors nous commençons cette revue de presse avec des crises en série.
C'est la routine d'une presse qui ne sait plus où donner de la tête et de la crise. Commençons par la crise écologique et la COP15 biodiversité qui se tient à Montréal, réunissant 200 pays. Sauf qui peut, la vie titre élégamment Libération. Pour la Croix, il faut réensauvager la nature. Pour Ouest France, préserver la nature est l'autre défi mondial. Pour le Figaro, la crise du jour, c'est la crise des systèmes de santé européens. En cause, le vieillissement de la population et la hausse des coûts médicaux. La crise sociale avec une grève de la SNCF aujourd'hui. Y aura-t-il de la grève pour Noël, s'interroge la Provence, tandis que la Marseillaise, jamais en retard d'un préavis, s'exclame « Prêt !» Les Échos ne parlent pas de crise, mais de bras de fer sur les salaires dans les secteurs des transports et de l'énergie. Dans les grands groupes publics, l'État est attendu au tournant sur la question du pouvoir d'achat. Et puis enfin, dans les pages politiques des journaux, il est question de gestion de crise, ou plus exactement de communication de crise.
Ouais, quelques mots, et c'est la communication gouvernementale qui est sans dessus dessous.
Lundi, sur BFM TV, le porte-parole d'Enidis répond aux questions de notre consoeur qui lui demande ce qui est prévu pour préserver les patients sous respirateur installés à domicile, sachant qu'à l'hôpital, ils seront a priori protégés des coupures de courant. Réponse un peu maladroite du porte-parole.
Les patients qui sont en haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Comme ils sont éventuellement délestables, on fait attention en particulier à eux. Si on sait qu'ils vont être délestés et qu'ils ne peuvent pas prendre les précautions qu'il faut, alors on va envoyer quelqu'un. Éventuellement, on va les aider à aller dans un endroit qui ne sera pas délesté, de façon à ce que la plus grande garantie...
Vous envoyez quelqu'un.
Voilà le mot délestable qui rime ces jours-ci avec détestable. Le Parisien vous raconte ce matin comment cette réponse a provoqué un déluge de réactions jusqu'à la colère du président. Évidemment, l'opposition s'en donne à cœur joie. C'est le moment de paniquer, réagit une députée de la France insoumise. Marine Le Pen s'indigne, c'est ahurissant, et elle pointe l'extraordinaire régression de notre pays. Le sang du président lui-même n'a fait qu'un tour lorsqu'il a regardé cette séquence, et de l'étranger, le président a fustigé la peur, rappelant aux opérateurs publics d'énergie que leur rôle est de fournir de l'énergie, ce n'est pas de transférer la peur ou de gouverner par la peur.
Alors évidemment, du porte-parole depuis parce que ça doit être compliqué.
Il a dû passer une mauvaise journée mardi et lundi après-midi. Alors évidemment, l'opinion fait la une sur la communication de crise du gouvernement. Ça avait pourtant bien commencé avec la sobriété et patatrac, voilà qu'il communique comme si le pire devait arriver. Vous lisez la presse ce matin et vous comprenez que la France a toujours confondu le pire avec le risque. Dans Les Échos, Cécile Cornudet se demande comment raison garder, comment faire tomber le vent de déraison qui s'est emparé du pays sur les coupures d'électricité. Eh bien, je vais vous le dire, c'est impossible. Les Français aiment se faire peur, dit-elle. Pourtant, si vous l'écoutez bien, le porte-parole d'Enidis, par qui la colère présidentielle est arrivée, que fait-il ? Il ne fait que préciser ce que les préfets ont instruction de faire en cas de coupure d'électricité. Il décrit un scénario de gestion de crise. Mais non, l'État a tellement biberonné les Français aux certitudes que même les scénarios de crise leur sont insupportables.
Alors après le scénario de crise, David, le scénario catastrophe des espèces menacées.
Le chef de l'ONU s'alarme, il est temps de cesser notre guerre contre la nature. Les journaux évoquent ce matin le chiffre d'1 million d'espèces menacées à l'occasion de la COP15 biodiversité. À la une de Ouest France, un éléphant, symbole, après l'ours blanc, de cette faune aujourd'hui menacée. Dans Le Parisien, le monarque de Fatouiva, un joli nom pour évoquer un oiseau dont il ne reste plus qu'une poignée de spécimens sur les territoires français très loin de la métropole. Il est tout petit, 40 grammes à peine. Il a un plumage noir luisant et il n'est pas farouche, le Fatouiva. Alors souvent, il se fait avoir par les prédateurs que l'homme a apportés dans son espace naturel, les rats par exemple qui mangent ses œufs. Alors évidemment, les animaux, les espèces menacées, on vous en parle tous les jours. Mais Le Parisien a les mots justes en citant Cédric Marteau, spécialiste des oiseaux. Sauver le monarque Fatouiva, dont vous n'avez jamais entendu parler évidemment, est aussi important, dit-il, que de sauvegarder notre patrimoine historique et culturel ou architectural. Imaginez qu'on laisse Versailles ou le Louvre se dégrader. Il a raison, Cédric Marteau, ça provoquerait un tollé. Alors que le monarque Fatouiva, il est tout petit, il est loin puisqu'il vit aux îles Marquises, petit oiseau pourtant, mais grand symbole. Et puisqu'il est question de scénarios de crise, sur le registre politique, lisez dans le Figaro le classement des ministres les plus rapidement éjectés d'un gouvernement sous la Ve République et sous la plume de notre excellent Guillaume Tabard. Thévenoud, ministre du commerce extérieur sous Hollande, dut démissionner au bout de 9 jours, recordman, parce qu'il avait du mal avec les impôts. Jean-Jacques Servan-Schreiber, sous Giscard, fut viré.
JJSS.
Exactement, fut viré par Chirac au bout de 12 jours pour avoir dénoncé les essais nucléaires. Et le professeur Schwarzenberg resta ministre 9 jours, recordman lui aussi, 9 jours viré par Mitterrand pour avoir évoqué, à l'époque, un test HIV pour les femmes enceintes et une possible dépénalisation du cannabis. Aujourd'hui, on l'aurait nommé ministre pour de telles déclarations.
Alors après le classement des ministres, le classement des meilleurs films de tous les temps.
C'est le classement Sight and Sound. Il existe depuis 1932. 1600 critiques de cinéma dans le monde entier et il est relayé, ce classement, par le très bobo New York Times. Et le film qui arrive en tête de classement devant Vertigo ou Apocalypse Now, quel est-il? C'est Jeanne Dielman de Chantal Akerman. C'est pour Libération, la divine surprise, évidemment, qui agace les critiques ringards. Un film de 3 heures que personne n'a vu. Pensez-vous.
Je ne sais pas le dire.
Une femme qui monologue, filmée par une autre femme. Génial. Mieux, une femme féministe et actrice, Delphine Seyrig, filmée par une femme cinéaste et lesbienne, le pompon de quoi faire se pâmer Libération, dans lequel vous lirez ceci. Le couronnement de Jeanne Dielman élargit la sphère, fait craquer les réseaux et les listings sages le bon goût. Le beau monde. Akerman, puis Hitchcock, puis Wells, puis Ozu, ça a de la gueule. Ça a un autre visage que la trinité bouffie sous le maquillage ou le scaphandre du classement établi par les seuls cinéastes et publiés en parallèle. 2001, l'Odyssée de l'espace, Citizen Kane, Le Parent. Pensez-vous. Bref, pour Libération, peu importe que personne n'ait vu ce film, du moment qu'une femme filme une autre femme en train de se regarder le nombril de la féminité, du moment qu'il enterre le patriarcat et ses vieux schnocks d'Hitchcock et Coppola.
Voilà, David. Vous, David, votre film préféré?
Je crois que c'est le... Ma première émotion cinématographique, c'est Le Fanfaron avec Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant.
Ah oui, ça reste quand même toujours dans des hautes sphères, un petit peu.
Voilà. Ah bon, non, Le Fanfaron.
Si, mais Le Fanfaron, quand même. Avec Vittorio Gassman. Mais c'est un film italien. Tiens, je pense la question, puisqu'ils sont déjà dans notre studio. Pascal Bruckner.
Psychose d'Hitchcock.
Et puis Marc Lambron, un académicien.
Alors, je vais juste vous signaler une chose, c'est que dans la liste des 10 meilleurs films dans les années 60, il y avait un film réalisé par une femme, régulièrement, c'était Les Dieux du Stade, de Leni Riefenstahl. Et depuis lors, évidemment, pour toutes sortes de raisons, il a disparu. Donc on est passé de Leni Riefenstahl à Chantal Akerman.
Leni Riefenstahl, la cinéaste de l'hitlérisme.
Bien sûr.
Mais vous n'avez pas répondu, mon cher Marc. Votre film préféré?
Je vous en donnais 3 ou 4. La règle du jeu, Vertigo, pour aller chez Hitchcock, L'homme qui tue Liberty Valance, de John Ford, et La Dolce Vita de Fellini.
Bah écoutez, c'est pas mal. Voilà, on a, dans cette revue de presse, parlé du monarque Fatou Iva. Le monarque de la revue de presse s'appelle David Abiker. Et vous le retrouverez dès demain sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez entendu les 12 voix de Marc Lambron et de Pascal Bruckner. Esprit libre, c'est juste après une petite page de pub. À tout de suite.